Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Quand Tintin nous aide à philosopher, c'est notre thème cet après-midi. Comme toutes les grandes œuvres, les aventures de Tintin et de ses amis ne cessent de poser des questions, bien au-delà de l'époque qu'ils ont vu naître. Le célèbre personnage créé par Hergé permet de s'interroger de façon ludique et profonde sur la métaphysique, la morale, le bien et le mal, l'amitié, la superstition ou encore le courage. Le philosophe Michel Serres remarquait que la tête de Tintin était ronde, cette tête circulaire lui rappeler les images à trous dans lesquelles chacun peut venir mettre sa tête. C'est ça Tintin, un héros polyvalent dans lequel chacun peut se projeter et s'identifier à sa guise. L'œuvre d'Hergé a produit mille et une interprétations et cet après-midi nous vous proposons un éclairage du hors-série de Philosophie Magazine Tintin et le trésor de la philosophie. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Martin Legros.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes rédacteur en chef au mensuel Philosophie Magazine. Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du hors-série Tintin et le trésor de la philosophie, coédité avec les éditions Moulinsart. Et c'est un album cartonné hein, qui ressemble à une BD. Hein.
Et c'est un album qui ressemble à une BD, qui est magnifique.
Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à Tintin et Hergé. Tintin et le secret d'Hergé est le dernier paru chez Hors Collection. Alors avant de se poser un tas de questions philosophiques à travers les aventures de Tintin, du capitaine Haddock, du professeur Tournesol, de la Castafiore, des Dupont d'été, racontez-nous votre plaisir à lire Tintin. Martin Legros.
Bah, c'est d'abord le plaisir, bien entendu, de l'enfant qui découvre, je dirais moi, ces trois choses qui m'ont tout de suite happé dans les aventures de Tintin. C'est d'abord, je crois, l'appel du monde. Quand on a 6-7 ans, on est envoyé en Amérique, on est envoyé sur la Lune, on est envoyé sur des îles mystérieuses, à la chasse au trésor. Donc c'est l'appel du vent, l'appel du large, l'appel du monde qui donne envie de voyager. C'est ensuite, moi, l'expérience ici, comme enfant, d'une forme d'humour très très particulière. Tintin en lui-même ne fait pas beaucoup de blagues. Tintin est quelqu'un d'assez sérieux qui prend sa tâche, son métier d'homme très au sérieux. Par contre, tous les personnages autour de lui sont des personnages qui sont à côté. Tournesol, les Dupont, le capitaine Haddock ne cessent d'être à côté de ce qu'ils devraient faire. Et ça fait beaucoup rire. Et enfin, la troisième chose que je retiens dans cette lecture d'enfant d'abord, c'est une éthique en situation, des questions morales en situation. J'étais par exemple terrorisé par le fait que, alors que Tintin survient tout le temps au secours de ses amis et que l'amitié est la grande valeur de Tintin, les Dupont et Dupont n'hésitent pas à arrêter ce même ami pour faire leur devoir. Et ça m'apparaissait comme quelque chose d'effrayant que des gens puissent, et je crois qu'Hergé voulait d'ailleurs qu'on ressente cela, que des gens puissent par devoir légal en un sens arrêter leurs amis. Voilà quelques impressions en tout cas que je garde de l'enfant lecteur en moi.
Et je souligne que vous êtes le belge de l'étape, mon cher Martin Legros. Serge Tisseron.
Oui, écoutez, Martin vient très bien d'évoquer les voyages, les aventures. Moi, en grandissant, j'ai commencé à lire Hergé, j'ai appris à lire dans les aventures de Tintin, mais après, en grandissant, il y a quand même autre chose qui m'a séduit, sans famille. C'est-à-dire que Tintin est libre. Hein. C'est le rêve de l'adolescent, il n'a pas les parents sur le dos. Vous savez, Hergé, parallèlement, dessinait Josette et Jouko, il protestait d'ailleurs des fois en disant « Je suis toujours obligé de faire en sorte que ce petit garçon et cette petite fille donnent de leurs nouvelles à leurs parents. » Ah, Tintin, il est libre. Alors voilà, quand on grandit, c'est merveilleux. On découvre tout ce qu'on peut faire en s'affranchissant de sa famille. C'est le rêve des ados.
Sven Ortoli.
Écoutez, après tout ce que vous venez de dire, j'ai peu de choses à ajouter, sinon deux peut-être. C'est beau, en fait. C'est beau à la fois sur le plan esthétique, c'est-à-dire que vous pouvez vous balader dans les albums de Tintin, que ce soit dans le Lotus Bleu ou dans Tintin au Tibet, vous avez des planches qui sont absolument merveilleuses. Mmh. Et c'est beau éthiquement, puisque c'est une des grandes séductions lorsqu'on a 6, 8, 10 ans, je ne me souviens plus à quel âge j'ai commencé à le lire, probablement vers 10 ans, vers 9, 10 ans. Mais où vous avez un rapport à ce que soulignait Martin, vous avez un rapport à l'amitié, vous avez un rapport à l'autre, vous êtes toujours prêt à essayer de sauver l'autre. Et ça, pour moi, c'était l'essentiel de la vie à cette époque.
Martin Legros, pour paraphraser Archibald Haddock dans Tintin au pays de l'or noir, Tintin, c'est à la fois très simple et très compliqué.
Oui, parfois on se perd même dans Tintin. On a l'impression qu'il sait ce qu'il doit faire, qu'il répond à l'appel de ses amis pour les sauver, mais il semble, comme le dit très bien Jean-Luc Marion, que chaque fois qu'il arrive dans une situation, c'est ce que lui dit d'ailleurs Milou, il introduit une sorte de désordre et de chaos. Et que tout l'album va être une sorte de tentative de remettre de l'ordre dans ce chaos, dans ce désordre que Tintin a introduit par sa volonté. Quelle est sa volonté? De savoir la vérité, d'établir des faits, de trouver un trésor, et tout cela va faire émerger le chaos qui gît dans nos vies et dans le monde, et l'album, à la fin, essaye de remettre un peu d'ordre dans ce chaos.
Alors, je citais tout à l'heure le philosophe Michel Serres, hein, « Si vous regardez la tête de Tintin, elle est ronde, je la compare à ces images à trous dans lesquelles chacun peut mettre sa propre tête. Il est polyvalent, vous pouvez vous identifier à lui. » Et moi aussi. Serge Tisseron, comment expliquez-vous ce grand pouvoir d'identification de Tintin ? C'est parce que Hergé a su créer des personnages d'une humanité incontestable.
Oui, ce qui est formidable, c'est qu'on dit les aventures de Tintin, mais dès qu'on prononce l'expression, qu'est-ce qu'on voit dans notre tête ? On voit Haddock, on voit les Dupont, on voit Tournesol. C'est-à-dire que Tintin, c'est un prétexte autour duquel les personnages tournent. Et effectivement, chacun peut s'y projeter. D'ailleurs, on a beaucoup dit, hein, il n'est pas vraiment enfant, il n'est pas vraiment adulte, c'est pas non plus vraiment un adolescent, hein, parce que les adolescents, ils sont très préoccupés par la sexualité. Or, Tintin ne l'est pas du tout. Oui. Est-ce que c'est un garçon et que c'est une fille ? Bon, vous savez, il y a des parodies qui ont évoqué le fait qu'il soit quand même très androgyne. Donc ce personnage, on peut s'y projeter, mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'à tout âge, on va en trouver d'autres. C'est-à-dire, on va pouvoir se projeter dans le capitaine Haddock, on pourra se projeter dans Tournesol. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est tous ces personnages qui gravitent autour de Tintin et qui vont nouer des liens entre eux. Tintin, c'est un révélateur et c'est en même temps un détective. Et finalement, vous savez que ce qui le caractérise comme détective, c'est qu'il a la compétence, on le voit bien dans les aventures, de déchiffrer des mots comme des images ou les images comme des mots. Et donc, du coup, cette compétence fait que les autres s'agrègent autour de lui et constituent, ben, vous savez, ce qu'on a appelé une famille, la famille qu'on se choisit, hein, voilà, la famille des amis, en effet, qui s'oppose à la famille génétique du petit enfant, la famille qu'on se choisit à l'adolescence et à l'âge adulte.
Serge Tisseron, ce qui est formidable avec Tintin, c'est qu'à chaque âge, on le lit de façon différente, avec une richesse d'interprétation à chaque lecture. On peut s'y identifier, hein, de 7 à 97 ans. Par exemple, pour le jeune lecteur, que représente Tintin ?
Ah ben, pour le jeune lecteur, c'est Milou. Quand vous êtes petit, c'est Milou. Je veux dire, après, c'est le capitaine Haddock. J'aime bien dire que le capitaine Haddock, c'est Milou humanisé. Il est aussi hirsute que Milou, et il est aussi noir que ce que Milou est blanc. Mais en même temps, Haddock, c'est un personnage déchiré. Or, Tintin, Milou est un personnage déchiré. Donc, quand on est enfant, oui, alors on voit Tintin. Bon, quand on est petit, on voit Tintin. Bon, on a l'impression que c'est un adulte, hein, quand on est petit. Mmh. Mais surtout, on voit Milou. Et Milou, c'est un personnage qui, avant l'apparition de Haddock, porte toutes les émotions. Autant Tintin, il sait où il va, il n'hésite pas, il est droit. Milou, il est déchiré. Vous savez, il y a cette figure du diable, Milou-ange, il est déchiré. Et ça parle beaucoup, je crois, à l'enfant. C'est ces déchirements. Se sentir divisé en deux et devoir choisir le bon côté, devoir choisir le sceptre et pas l'os, par exemple, dans le sceptre d'Ottokar. Voilà. Et je crois que c'est ça qui bouleverse l'enfant, c'est les déchirements de Milou. Et puis cette fidélité entre Milou et Tintin.
Martin Legros.
Oui, on a beaucoup dit à propos de Milou que ça marque les enfants, c'est un chien qui parle, c'est un chien qui pense, c'est un chien qui a de la morale, qui a une morale. Tout ça est très vrai, mais je dirais que Hergé est tellement intelligent que non seulement il nous fait penser aux enfants et qui sont tout prêts à l'admettre que les animaux sont, ou les chiens en particulier, sont des êtres semblables à nous, mais en plus de cela, il parvient à donner des arguments pour montrer qu'en réalité, dans le fond, ils sont très différents. Et ce que vient dire Serge Tisseron est très juste. Milou, son rapport à la morale, c'est un rapport entre le bien et le mal. Il a des désirs et la morale lui tombe dessus en lui disant « il faut que tu fasses ton devoir ». À l'inverse, chez Tintin fait aussi son devoir, mais il trouve le bonheur en faisant faisant son devoir. Et donc, Hergé suggère que là où pour l'animal, faire son devoir, c'est obéir, pour l'homme, faire son devoir, c'est plus large, c'est se trouver, c'est s'épanouir. Et je trouve que, tout en s'ouvrant au monde animal, Hergé maintient l'idée qu'il y a une distinction. Et ça, c'est très subtil.
Il maintient qu'il y a une idée de distinction, et en même temps, il n'est pas dans l'espèce de supériorité de l'homme sur le chien. Milou est toujours à égalité quasiment avec Tintin. L'autre chose sur Tintin lui-même, que je veux ajouter ou dire autrement que ce qu'a très bien dit Serge Tisseron, c'est que Tintin, c'est la... Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il a pas... c'est une page blanche au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire c'est au sens étymologique un album. On peut écrire dessus et c'est ça, c'est une partie de son succès quand on est enfant, c'est que vous vous projetez, c'est un peu ce que dit Michel Serres également, vous vous projetez dans cette bulle, dans ce cercle rond qui est ouvert sur un infini.
Et puis Serge Tisseron, ce nom Tintin est assez énigmatique, on ne sait pas si c'est un surnom, un sobriquet, quel est son véritable nom?
Oui, alors, il y a une anecdote qui court là-dessus. Peut-être Sven ou Martin pourront nous dire si elle est totalement fantaisiste ou elle a un fond de réalité. Vous savez, Hergé aurait courtisé une fille, qu'il aurait bien aimé épouser, qui s'appelait Milou, qu'il avait surnommé Milou. Et donc, lorsqu'il aurait demandé sa main, le père de Milou, parce que Hergé était sans métier, le père de Milou aurait répondu « Milou Tintin ». Voilà. Donc, ça aurait associé les deux mots. C'est du jolie histoire. Hein,
voilà, en tout cas, même si elle n'est pas vraie, elle est très jolie.
Oui, absolument.
Serge Tisseron, vous écrivez qu'en dépit des apparences, Tintin est une œuvre énigmatique. Et dans votre dernier livre consacré à Tintin et Hergé, vous écrivez énigmatique en lettres capitales. Expliquez-nous pourquoi c'est énigmatique, Tintin.
Oui, alors effectivement, ça a été ma contribution. Alors beaucoup de gens ont porté leur contribution à l'œuvre d'Hergé. Moi, ça a été celle-là. C'est que j'ai toujours été frappé, vous l'avez évoqué tout à l'heure en débutant l'émission, par le fait que les Dupont, qui sont jumeaux, qui sont présentés comme jumeaux, qu'on peut penser être jumeaux, s'appellent différemment. Il y en a un qui s'appelle Dupont avec un D, et l'autre Dupont avec un T. Donc quand j'étais enfant, ça me préoccupait pas mal. Puis quand j'ai décidé de devenir psychiatre, j'ai essayé d'approfondir cette question. Et l'idée, voilà, que peut-être qu'ils auraient d'autres père, voilà, l'idée qu'il y aurait un secret de filiation là autour, et puis cette aventure extraordinaire qui est celle d'ailleurs qui fascine le plus les enfants, hein, parce que quand on demande aux enfants quel album ils préfèrent, c'est toujours Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Racamelle Rouge, et dans ces deux albums, on voit le chevalier de Haddock, hein, voilà, en proie à son alcoolisme, à ses terreurs, voilà, à ses frustrations, un peu comme plus tard son descendant, le capitaine, c'est le chevalier à l'époque Louis XIV, et donc voilà, et à porte de tourner les albums de Hergé dans tous les sens, j'ai eu l'impression qu'il y avait une histoire de filiation cachée dans les aventures de Tintin, que le chevalier de Haddock pourrait être un fils non légitimé pour Louis XIV. Et d'ailleurs, Louis XIV, dans le fameux parchemin, vous savez, qui est découvert par Tournesol, découvert par Tintin, puis déchiffré par Tournesol, le parchemin de la donation du château de Moulinsart au chevalier de Haddock, il est question du « mon cher et aimé François ». Donc voilà, je me suis dit, ça, c'est plus les paroles d'un père à son fils que du roi Louis XIV, un capitaine de marine de son armada.
Serge Tisseron, je ne révèle pas un secret, mais les aventures de Tintin font écho à votre propre histoire personnelle. Est-ce qu'on peut dire que les aventures de Tintin vous ont aidé dans la vie et à comprendre certains pans de votre vie ?
Oui, complètement, et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit, c'est-à-dire que, étant parti à la découverte de ma propre histoire familiale, marquée par beaucoup de secrets, mais notamment par un secret de filiation que j'ai jamais d'ailleurs réussi à bien élucider, et comme mon histoire avait été marquée par les aventures de Tintin, j'ai pris comme support les aventures de Tintin, c'est vrai, j'ai cherché à comprendre le secret caché dans les aventures de Tintin, et chaque fois que j'avançais un petit peu, ben j'avançais un petit peu aussi dans ma propre histoire. Mais vous savez, je pense que c'est comme ça, quand on se passionne pour une œuvre, on prend toujours appui sur cette œuvre pour faire une démarche personnelle. Alors ça peut être mieux se comprendre, ça peut être mieux comprendre les autres, ça peut être mieux comprendre la vie, voilà, mieux découvrir certains aspects de la philosophie qu'on n'avait pas bien compris jusque-là. Pour moi, ça a été la compréhension de Secret de ma famille. Oui, les deux ont été menés en parallèle. C'est pour ça que j'ai, comme je dis toujours, j'ai une sacrée dette vis-à-vis de Hergé. Voilà.
Alors on va y revenir tout au long de cette émission. Tintin est une véritable introduction à de grands concepts philosophiques. Sven Ortoli, vous écrivez dans votre éditorial « Les questions philosophiques essentielles sur le juste et l'injuste, l'amitié et la haine, le vrai et le faux, suintent de Tintin comme le latex d'un EVA ».
Oui, je dois dire que sur la métaphore, j'ai peut-être un peu abusé. Mais enfin, elles suintent effectivement. Elles sont partout. C'est-à-dire que c'est un des aspects essentiels de Tintin, c'est que vous prenez un album et vous tombez sur une question sur la nature. Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le faux? Qu'est-ce que c'est que vous prenez les fétiches de l'oreille cassée, par exemple. Je suis sûr que vous avez une statue chez vous. Par exemple, j'imagine que vous avez le penseur de Rodin en miniature. Qu'est-ce qui distingue ce penseur de Rodin en miniature que vous avez chez vous du vrai penseur de Rodin? C'est une question qui se pose à travers Tintin. Donc, dans ces œuvres-là, comme le font généralement les philosophes, si l'œuvre est suffisamment riche, si elle est suffisamment belle, elle se prête forcément à une interprétation en termes philosophiques. C'est-à-dire qu'on va aller y pêcher, on va y repêcher des bribes sur la nature du réel. Quand les Dupont se baladent dans le désert et qui font deux ou trois fois le tour et qui s'interrogent sur la nature de leurs traces, quand on s'interroge sur l'identité, ben voilà, c'est des questions philosophiques essentielles.
Martin Legros, Tintin est donc sans famille, sans identité précise, sans visage, il est parfaitement neutre, et c'est pour cela qu'il incarne l'homme par excellence, l'homme avec un grand H. En quoi est-il universel? Et vous posez la question au philosophe Jean-Luc Marion dans votre hors-série. Jean-Luc Marion qui voit dans Tintin un dépassement progressif de la division entre les hommes, les cultures et les identités. Expliquez-nous.
Alors, il faut quand même admettre que, concernant Hergé, on vient de loin, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde les premiers albums, que ce soit Tintin au Congo, même le Crapaud Pince d'Or, mais particulièrement Tintin au Congo, on vient... D'ailleurs, qui est un album que je mettrais un peu à part, qui est de plus un document historique, je dirais aujourd'hui, sur le colonialisme, en réalité, et où la différence entre les hommes, la différence entre les Blancs et les Africains, entre les Européens et les Africains, est massivement affirmée, où le Blanc est en position de colonisateur qui doit apporter la civilisation. Donc là, on est dans une fracture très très forte que Hergé reprend à son compte. C'était un album qu'on lui avait demandé de réaliser pour vanter la présence belge au Congo, il s'y est plié, il a gommé toute forme de violence, mais tout en exprimant en réalité l'inconscient ou même le conscient colonial. Donc on venait de loin, si je puis dire, en termes d'universel, et c'est ça qui est le plus frappant chez Hergé, c'est cette aventure où on part de Tintin au Congo d'une division très très forte entre les peuples et les cultures, et on arrive au final dans Tintin au Tibet ou dans le Lotus Bleu, dans la découverte par Tintin d'autres formes d'humanité. Ce qui je trouve le plus précieux, c'est que Tintin n'est pas dans une forme de multiculturalisme où chacun serait finalement enfermé dans sa culture, à égalité mais enfermé. C'est plutôt où Tintin a une vraie curiosité et donne sa chance aux propositions, je dirais, d'humanité dont chaque culture est porteuse. Et donc c'est vrai qu'on voit cette odyssée vers une forme d'affirmation d'abord d'un socle d'humanité commune que Hergé a découvert progressivement. Il partait de très très loin. Il découvre ce socle, et sur fond de ce socle d'humanité commune, il donne sa chance à des propositions d'humanité distinctes et différentes. Bouddhisme, monde asiatique, autre monde martien peut-être aussi, l'hypothèse d'autres humanités martiennes, mais c'est très très fort comme hypothèse. Et donc il y a cette ouverture sur fond d'une humanité commune, et c'est vrai que c'est une odyssée un peu éthique, les aventures de Tintin.
Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé, à la réalisation Stéphanie Texier, et je vous propose d'écouter Stevie Wonder. I wish. Hang on!
I wish.
J'ai pensé qu'un vieux loup de mer comme vous devait se sentir bien seul dans sa barquette. Alors j'ai songé à vous offrir ce perroquet qui sera pour vous le plus fidèle des compagnons.
Quoi ? Grand bien vous fasse.
Quoi ? Quoi ? Tonnerre de Brest
sur France Inter.
Et cet après-midi, comment Tintin peut nous aider à philosopher ?
Je vous le conseille, quand vous avez des moments de mélancolie, d'abattement ou de dépression, lisez un album, vous verrez. Au point de vue thérapeutique, c'est excellent. Je vous le donne comme ordonnance médicale.
Alors moi, bien sûr, j'ai des albums préféré, est-ce que vous-même vous en avez
Il y a des albums, si vous voulez, où le récit est peut-être plus prenant, comme dans le Trésor de Racamelle Rouge, vous voyez. Mais d'autre part, ils sont chacun assez profonds. Et quand vous lisez le Racamelle Rouge, par exemple, j'ai une amie philosophe qui m'a donné la clé. Elle fait de la pop philo, elle. C'est vraiment très intéressant. Et elle dit, tu sais, voilà, ils cherchent le bonheur partout, loin, dans des îles un peu perdues. Et puis le bonheur, ben, il est chez soi. Vous voyez, ça, c'est vraiment une leçon extraordinaire de ce livre-là. Vous voyez, et il y a comme ça des leçons un peu partout, comme dans Tintin au Tibet, de dire que le pire des hommes est bon. Quand même, c'est quand même une très très belle leçon de morale. Vous voyez. Je crois que presque tous les albums sont de véritables chefs-d'œuvre. Vous voyez, et par conséquent, chacun est d'une certaine manière unique en son genre. Et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment une œuvre de génie.
Michel Serres sur France Culture en 2016. Serge Tisseron, je rappelle que vous êtes psychiatre. Comme Michel Serres, vous défendez également les vertus thérapeutiques de Tintin.
Oui, complètement, complètement. Mais ça rend heureux.
Et
c'est incroyable d'ailleurs, parce que il ne faut pas quand même oublier qu'Hergé a osé aborder des choses dont personne n'osait parler à son époque dans la bande dessinée, surtout à l'époque un genre dessiné pour les enfants. Il y a quand même dans les aventures de Tintin un personnage qui menace de se suicider. Un Müller se met un revolver sur la tempe, appuie sur la détente, sauf que le revolver était donné par Abdallah. Il était bourré d'encre et Müller ne fait que se noircir le visage, ou bien le suicide de Wolf dans le retour de la Lune. Et donc des choses qui sont bouleversantes. Et pourtant, il y a un message humaniste extrêmement fort d'aimer la vie. Ce personnage aime la vie. Et en plus, oui, par rapport à ce qui a été dit, il ne faut pas oublier, Hergé, il va tellement créé à partir de ce qu'il est, qu'au fur et à mesure qu'il évolue, qu'il vieillit, qu'il découvre la vie autrement, il va faire en sorte que ces personnages aussi évoluent, découvrent la vie autrement. Et donc, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les enfants, les adultes, lisent les aventures de Tintin dans n'importe quel ordre. J'ai encore appartenu à une génération où on a pu grandir et vieillir avec les aventures de Tintin, parce que on les a découverts enfants dans les premiers albums, et puis au fur et à mesure qu'Hergé vieillissait, faisait vieillir ces personnages, même si leur apparence restait semblable, ils se comportaient autrement, voilà. Eh bien, Haddock, par exemple, qui échappe à son alcoolisme, au fur et à mesure que Hergé vieillissait, que ces personnages évoluaient, on évoluait avec eux. Aujourd'hui, c'est un plaisir qu'on n'a plus, mais il reste le bonheur de découvrir les albums en ordre dispersé. Mais je pense que c'est pas du tout la même chose que de découvrir dans l'ordre. Moi, je conseille plutôt aux enfants de lire les albums dans l'ordre.
Zénor Tolly, Martin Legros, vous publiez un hors-série de Philosophie Magazine, Tintin et le trésor de la philosophie. Vous êtes sensible aux vertus thérapeutiques, antidépressives des aventures de Tintin, Sven Ortenay. Alors,
très sensible, il suffit même à la rédaction de sortir d'un livre de philo, je dirais plus complexe, pour rentrer dans Tintin. Je vois mes camarades qui tournent autour de moi parce que je suis en train de lire Tintin et je suis payé pour ça. Et je les vois déjà sourire, rien qu'à me voir en train de lire Tintin. Donc oui, il y a des vertus thérapeutiques évidentes.
Martin Legros.
C'est mon opinion et je la partage, comme dirait Dupont. Oui, en effet, vertu thérapeutique. Dans l'extrait que vous avez donné de Michel Serres, il dit aussi c'est un retour vers soi, Tintin, au sens. C'est un qu'est-ce que ça veut dire un retour vers soi? Je trouve que c'est très juste à condition qu'on précise que c'est un retour vers soi, comme il y a un grand courant dans la philosophie qui s'appelle l'herméneutique, qui veut dire qu'on doit faire passer par là. Herméneutique, c'est l'interprétation. C'est l'idée qu'il faut interpréter les œuvres pour les comprendre. Eh bien, l'herméneutique, la grande leçon de l'herméneutique, c'est de dire que il faut traverser le langage, la culture et le monde pour pouvoir revenir vers soi, lourd de toute une série de symboles, et comprendre ses propres affects, ses propres sentiments, et que donc c'est grâce au langage d'abord, mais grâce aux œuvres aussi, qu'on parvient à se comprendre soi-même. Et c'est le message du trésor de Rackham le Rouge. Ils font toute cette odyssée à la recherche d'un trésor pour découvrir qu'en fait ce trésor est dans les caves du château de Moulinsart, qu'ils vont pouvoir acheter grâce à l'invention du professeur Tournesol. Mais il fallait le détour du monde et des œuvres pour comprendre que le trésor était à portée de main. Voilà peut-être une des leçons thérapeutiques de Tintin.
Bonjour Anne-Marie, bienvenue.
Bonjour.
Grande lectrice de Tintin, c'est ça?
Ah oui, oui, oui. Oui, grande lectrice de Tintin depuis mon enfance, qui se passait dans les années 50.
Ça ne s'entend pas la voix, ça ne s'entend pas Anne-Marie.
Voilà, et alors, quand vous avez parlé de Tintin, moi, Tintin, c'est pour moi, ça a été pour moi, à cette époque-là, une ouverture formidable sur le monde entier, quoi. C'est ça, Tintin. On découvrait tous les pays du monde, des façons, des cultures différentes, des vies différentes. Et, je dis « on » parce que mes frères et sœurs étaient comme moi. Et je pense que ça nous a aussi donné envie d'aller voir ce monde. J'y ai pensé à autre chose aussi, là, depuis tout à l'heure que je vous ai appelé, mais ça correspond peut-être pas au sujet, mais avec l'âge, on voit, il y a toujours des choses à découvrir. Et alors maintenant, depuis quelques temps, je m'intéresse beaucoup au personnage de la Castafiore. Parce que la Castafiore, c'est une femme finalement très féministe. On s'amuse, on en rit beaucoup, mais en fait, c'est une femme qui est libre, indépendante financièrement. Elle travaille. Elle fait ce qu'elle veut, toujours.
Anne-Marie, on va faire plaisir.
Elle a eu beaucoup d'admirateurs et sûrement des aventures. Et donc, je trouve que c'est un personnage qui est en fait très intéressant.
On va vous faire plaisir, Anne-Marie, on va écouter la Castafiore.
Comment vous n'êtes pas au courant? Je chante ce soir au Cursaal de Clos. Vous plairait-il d'assister au spectacle?
Oh, c'est très gentil à vous, madame, mais j'ai des choses importantes à régler.
Oh, vraiment?
Je ne peux malheureusement pas vous expliquer, mais...
Ah, cela ne fait rien, mon garçon, je comprends parfaitement. Vous plairait-il de m'entendre maintenant? Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Est-ce toi, Margarita? Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Est-il de m'entendre chanter autre chose? Avant que nous arrivions, bien sûr.
Ce sera avec plaisir, madame, mais je descends ici. Merci encore.
Un extrait du Sceptre d'Ottokar, spécial dédicace, Anne-Marie. C'était pour vous, la Castafiore. Et tiens,
Laurent... la vitre qui est près d'éclater.
Exactement. Et Laurent, voilà. Et Laurent vient de nous écrire, n'est-il pas problématique que la seule représentation de la femme dans les aventures de Tintin soit la Castafiore et que, en dehors d'elle, aucune autre ne soit présente dans tous les albums? Vous posez la question dans votre hors-série, Martin Legros, vous interrogez la philosophe Manon Garcia, qui sera bientôt professeure à l'université Yale. Pour elle, la Castafiore est la métaphore de ce qu'il y a d'insupportable pour les hommes quand les femmes prennent la parole.
Oui, Hergé disait qu'il aimait trop les femmes pour les caricaturer, pour expliquer à l'absence, en effet, des femmes dans les aventures de Tintin. Et il est vrai qu'à part quelques concierges et femmes acariâtres, il n'y a pas beaucoup de femmes dans Tintin, mais il y a la Castafiore qui sauve un peu la mise, si je puis dire, et qui est un personnage, quand on y pense, un peu monstrueux. En effet, c'est une cantatrice très indépendante, comme le disait l'auditrice qu'on a entendue, c'est une femme indépendante qui vit par elle-même, qu'on n'entend jamais chanter, ou quand elle chante, elle casse le vert. Qu'est-ce que ça veut dire, le personnage de la Castafiore? Eh bien, l'idée de Manon Garcia, que je trouvais intéressante, elle est de dire que la Castafiore apparaît dans des années où les femmes commencent à prendre leur indépendance. Et cette voix intempestive qui, il suffit de voir dans le Sceptre d'Ottokar, quand à la rencontre qu'on a diffusée à l'instant, Tintin vient de rencontrer la Castafiore, elle se met à chanter et on voit le visage de Tintin déconfie cet être si énergique et audacieux, mais privé de tous ses pouvoirs. Eh bien, la Castafiore Melchior, c'est sans doute peut-être la femme qui prend la parole de manière véhémente et du coup qui apparaît aux hommes comme quelqu'un qui occupe tout l'espace, qui brise le verre, qui s'empare du pouvoir et qui leur fait peur. Et elle ajoute, ce que je crois qui est très vrai aussi, que la Castafiore, c'est aussi peut-être que Hergé disait aux femmes, regardez, si vous prenez votre indépendance, si vous vous émancipez des hommes, vous allez vous retrouver seul, vous allez vous retrouver dans des aventures où vous devrez appeler les hommes malgré tout quand vous serez mal embarqué ou arrêté. Donc votre indépendance risque de se payer très très cher.
L'interprétation de Serge Tisseron.
Oui, écoutez, c'est bien de vouloir tirer la Castafiore du côté du féminisme, c'est vrai, c'est tendance, mais de façon générale, je voudrais dire que c'est un personnage qui a été très mal compris. Hein. C'est vrai qu'elle a été accusée d'être une virago, castratrice, etc. Donc je préfère de beaucoup qu'elle soit présentée aujourd'hui comme une féministe plutôt que comme une femme castratrice, parce qu'elle mérite d'être vue positivement. Mais en revanche, faut pas oublier non plus que elle n'arrive jamais à donner son véritable patronyme au capitaine Haddock. Mmh. Elle l'appelle de tous les noms possibles, Arbok, Karpok, Kapok, mais jamais son véritable nom. Donc, il y a aussi cette difficulté de la Castafiore à pouvoir nouer une relation. C'est un personnage très attachant, c'est pour moi pas du tout un personnage castrateur, mais c'est un personnage qui est prisonnier de ses difficultés, de ses tensions, un personnage extrêmement riche chez Hergé. Et n'oubliez pas non plus que c'est un personnage qui est tantôt présenté comme une cantatrice, donc elle a son manteau de vison, voilà, ou sa robe, et puis elle bascule dans l'identité, dans une seconde identité, qui est l'identité du personnage de la Marguerite de Gounod. Et donc, en effet, moi, c'est un personnage qui m'a intéressé parce qu'il m'a semblé que si on tire le fil, parmi d'autres, mais si on tire le fil d'un secret qui traverse les aventures de Tintin, la Castafiore, c'est vraiment le personnage du départ, c'est-à-dire c'est le personnage qui est détentrice d'un secret, et c'est le secret d'identité de l'identité du capitaine Haddock, descendant du chevalier. Et bon, ça peut tirer peut-être tirée par les cheveux, mais je renvoie à ce que j'ai écrit. Et effectivement, elle ne peut jamais donner au capitaine Haddock, le descendant du chevalier, son véritable patronyme. Donc à partir de là, ben là, il y a différents personnages autour, les Dupont qui représentent le père et l'oncle de Hergé, voilà, qui cherchent la vérité, qui la trouvent jamais. Et puis Tintin, Haddock, Tournesol, les inséparables, qui présentent un peu des facettes de Hergé. Hergé l'a dit lui-même, Tintin, c'est moi quand j'accomplis mes projets idéaux, Haddock, c'est moi quand je m'abandonne à la boisson ou à la colère, et Tournesol, c'est moi quand je suis enchaîné à ma table de travail. Voilà. Donc moi, je vois bien la Castafiore comme ce personnage originaire, mais très complexe. Et ça c'est bien qu'on le voit, qu'on lui ajoute la facette féministe, parce que la facette castratrice était insupportable. Elle est beaucoup plus riche que ça.
Sven Ortoli.
Je veux juste renchérir sur ce que dit Serge, à savoir que la Castafiore est un personnage grotesque. En tout cas, moi, quand je la voyais enfant, je la voyais de manière grotesque. C'est une espèce de tante qui arrive au repas de famille, qui est célibataire, et en disant ça, je me rends compte que la lecture qu'offre Manon Garcia est une lecture évidemment parfaitement idoine. Elle est partielle, mais elle est bonne.
Écoutons à nouveau le philosophe Michel Serres. C'était dans l'émission Bouillon de Culture en 1992.
Pourquoi aviez-vous choisi de parler des bijoux de la Castafiore? Alors, j'oublie pas que vous êtes un historien des sciences. Vous auriez pu parler de Objectif Lune, on a marché sur la Lune, de l'étoile mystérieuse.
Oui, bien
sûr.
Pourquoi
les bijoux de la Castafiore?
Bien parce que les bijoux de la Castafiore m'avaient paru, si vous le lisez de façon très très précise, vous apercevez que c'est une sorte de récit extrêmement réussi sur les défauts et les difficultés de la communication. C'est-à-dire, le téléphone ne marche jamais, l'escalier est toujours cassé, on n'arrive pas à savoir qui donne des gammes, et ainsi de suite. Oui. Et par conséquent, moi qui m'occupais à cette époque-là de la communication, j'avais écrit un article pour dire que le meilleur traité sur les parasites de la communication ou les obstacles à la communication, c'était les bijoux de la Castafiore. Et j'avais développé cette idée-là, et c'est pourquoi Hergé m'avait écrit et que nous sommes rencontrés.
Et ce qui est intéressant avec les bijoux de la Castafiore, c'est que c'est également une critique sur les fausses informations, en particulier les accusations infondées contre les Roms, accusés donc d'avoir volé les bijoux de Bianca Castafiore.
C'est un album extraordinaire. Et pour rebondir sur ce que disait, je crois, Serge tout à l'heure, sur les âges de lecture, je trouve que c'est un album qu'on lit mieux un peu plus tard. Quand j'étais petit, je le lisais, je disais, il n'y a y a pas d'aventure, en fait. Le résumé est le suivant. Au château de Moulinsart, les bijoux de la cantatrice, donc ce que vous venez de dire, ont été volés, ont été dérobés, et on cherche des coupables. Les coupables sont évidents. Il y a une tribu, il y a des bohémiens qui sont de passage et qui ont été hébergés par le capitaine Haddock. C'est assez beau d'ailleurs aussi cet hébergement tel qu'il est présenté par Hergé. Et on cherche partout le coupable, on va trouver des fausses causalités en fait, c'est-à-dire des indices qui nous entraînent sur de fausses pistes en permanence. Et donc on fait une boucle tout entière pour arriver à trouver que, ben voilà, c'est une pie qui est responsable du vol.
Martin Le Gros.
Oui, on dit beaucoup aujourd'hui qu'il ne faut pas confondre les corrélations et les causalités, que ce soit pour le Covid ou que ce soit pour toute une série de phénomènes. Eh bien, les bijoux de Cassafior, c'est un magnifique antidote à cette confusion. Ce ne sont que des contingences qui créent dans l'esprit du lecteur et des personnages des débuts de causalité, mais chaque enclenchement d'une causalité se découvre être une simple corrélation. C'est un très beau album sur cette question.
Tiens, je vous pose la question suivante, question difficile. Pourquoi la vérité du monde que nous dévoile Tintin est fondamentalement éthique?
Ah oui, elle est éthique parce que je crois que tous les albums, principalement, les grands albums de Tintin, commencent par un appel. Un appel d'un ami, un appel du tournesol, un appel du capitaine à venir l'aider. Tintin répond à un appel. Et l'éthique, c'est répondre à un appel. Sortir de soi pour nouer un lien. C'est un appel concret et en situation. C'est des amis qui l'appellent. En cela, Tintin est assez grec. Pour les Grecs, l'éthique, c'est d'abord l'amitié. Mais c'est aussi, je dirais, assez grec dans la mesure où pour Tintin, l'éthique, ce n'est pas uniquement répondre à un devoir et un appel qui tombe de haut, la loi morale.
Ce n'est pas une contrainte.
Ce n'est pas une contrainte. Tintin, quand il découvre Chang, qu'il est allé chercher dans les montagnes de l'Himalaya, il dit « Oh Chang, que je suis heureux. Au bout de notre devoir, il y a le bonheur. » C'est aussi une leçon très aristotélicienne. L'éthique n'est pas une contrainte, n'est pas une norme qui nous tombe d'en haut. Elle peut l'être aussi, mais elle est une manière pour nous de réaliser notre vertu et de réaliser notre bonheur.
Alors bien souvent, Tintin répond à l'appel de l'amitié. Que nous dit Hergé de l'amitié? Quel est le sens de l'amitié selon Hergé?
Alors qu'elle s'adresse à des singularités absolues, l'amitié qu'éprouve Tintin pour Tournesol n'est pas la même qu'il éprouve pour le capitaine.
Et pour Chang. Magnifique amitié.
Exactement. Elle est beaucoup plus, je dirais, affectueuse, affective avec Chang. Elle est fraternelle avec le capitaine. Elle est, je dirais, un peu familiale avec Tournesol, comme d'un cousin. Et donc, il y a des modalités de l'amitié qui sont assez différentes. Mais pour chacun de ces êtres qui sont différents, il faut être là, répondre présent, quitte à mettre sa vie en jeu.
Et la fidélité, c'est l'une des qualités cardinales hein, dans les aventures de Tintin, la fidélité absolue de Milou à Tintin.
Oui, la fidélité de Milou à Tintin, qui est morale, mais qui est un peu plus obéissante que la fidélité de Tintin. De nouveau, il y a un palier, il y a une gradation des formes de fidélité possibles en fonction des êtres et en fonction de savoir si c'est un animal ou un homme.
Bonjour Antoine, bienvenue.
Oui.
Bienvenue sur France Inter. Je me permets de te tutoyer. Tu as 7
Bonjour.
Ans. Bonjour. Pourquoi aimes-tu Tintin, Antoine?
Parce que c'est rigolo. Parce que c'est des aventures extraordinaires.
Mmh. Est-ce que tu as un personnage préféré dans les aventures de Tintin? Est-ce qu'il y a un personnage qui te plaît plus que d'autres?
Oui, Tintin.
Ouais. Pourquoi tu l'aimes, Tintin?
Parce que c'est un peu l'héros de l'histoire.
Mmh. Ouais.
Et parce que il est rigolo des fois.
Mmh. Et est-ce que le capitaine Haddock, tu le trouves rigolo?
Oui.
Avec tous ces gros mots que tu comprends peut-être pas. Est-ce qu'il y a un album que tu préfères? Est-ce qu'il y a des aventures que tu préfères, Antoine?
Oui, on a marché sur la lune.
Ah, bah ça, bah oui, j'imagine bien, oui. Moi, j'étais un peu comme toi. C'était peut-être mes albums préférés quand j'étais petit. On a marché sur la lune et Objectif Lune. Martin Le Gros, tiens, sur ce que nous dit Antoine.
Oui, alors j'aurais bien demandé à Antoine si ceux qui préfèrent dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune, c'est le fait qu'on se retrouve sur la Lune et donc on marche un peu avec Tintin, ou bien c'est les histoires dans la fusée avec les adversaires, les ennemis. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ?
C'est un peu les deux en fait. Car c'est bien quand ils sont dans la fusée. Mais surtout, mon rêve, c'est de marcher sur la Lune.
Merci beaucoup. Ah, pardon. Vas-y, Antoine, continue.
Alors, c'est un peu dur de me départager.
Merci, Antoine, de nous avoir appelé. Tu as devant toi une longue vie de lecture de Tintin. Tiens, dans les aventures de Tintin, Hergé pose la question du mal, du bien et du mal en particulier dans les derniers albums, Martin Legros.
Oui, les derniers albums font place à des personnages qui sont de plus en plus méchants, vicieux même. Hergé aborde là la question du mal. Mensonges, notamment.
Il y a dans Tintin et les Picaros.
Dans Tintin et les Picaros, mais aussi...
Tintin ment dans Tintin et les Picaros. Tintin... Il ment très mal, mais il ment.
Voilà, exactement. Tintin ment pour la bonne cause, oui. Pour des bonnes conséquences, mais aussi, je dirais, dans Vol 714 pour Sydney, il y a ce terrible entre Karedas et Rastapopoulos qui se font un concours de méchanceté, et là, on est confronté à quelque chose, alors que Tintin nous présentait des personnages bons, et là, on a un concours de méchanceté et c'est assez effrayant. On se demande dans un huis clos assez terrible. Et c'est vrai que progressivement, moi j'ai le sentiment que dans les aventures de Tintin, il y a place est faite à la possibilité du mal. On évoquait avec Antoine à l'instant Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Eh bien, cette extraordinaire odyssée sur la Lune, anticipation du voyage, est aussi une réflexion profonde sur, en réalité, comment est-ce qu'on vit dans une petite fusée comme cela, avec le bien et le mal, comment est-ce qu'on les fait se côtoyer et que être sur Terre, comme être sur la Lune, c'est en réalité parvenir à faire avec le mal, à vivre avec le mal, à lui faire une place, plutôt que de l'éjecter, comme c'était la tentation peut-être des premiers albums de Tintin.
Tes doigts sur ma peau, poisson dans l'eau, qui ne rêve qu'à s'unir pour survivre, tes lèvres à moitié chaudes promettent des choses grandioses. Je rêve encore d'une autre vie. Je rêve encore d'une autre vie. Et pourtant tu l'as trouvé, toi. Et pourtant tu l'as cherché.
Qui interprétait Une autre vie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et cet après-midi, comment Tintin peut nous aider à philosopher ? Un auditeur nous dit « J'aimais Tintin car la morale est sauve ». Martin Legros, rédacteur en chef à Philosophie Magazine.
Oui, c'est assez juste, mais heureusement que Tintin n'est pas uniquement une œuvre édifiante qui nous dit de faire le bien. Elle fait la place au mal et c'est là qu'elle commence à devenir intéressante, je dirais.
Des questions nous parviennent sur quelques aspects déplaisants des aventures de Tintin. Tiffaine nous dit comment une œuvre raciste comme Tintin au Congo pourrait-elle nous aider à philosopher, Martin Legros?
Oui, alors il faut faire sa part à Tintin au Congo, qui est une œuvre à mon avis à part, qui est devenue aujourd'hui un document à mon avis historique sur le colonialisme et le racisme. On intervient en roche dans ce hors-série Felvin Sarr, qui dit son effroi devant cette œuvre, mais qui dit aussi que c'est une œuvre qui nous apprend en réalité à voir quels sont les dispositifs de naturalisation de l'autre qui ont été à l'origine du racisme. Donc ça donne aussi à penser. Je pense moi à la vignette assez incroyable où on voit Tintin déguisé en singe, des singes qui ont l'aspect des Africains, pour récupérer Milou. Et là, il y a quelque chose tout à fait de qui s'imprime en nous. On se demande qui est l'animal de l'autre. Et là, il y a quelque chose qui donne à penser et en même temps qui donne à s'inquiéter de la manière dont on naturalise la différence.
Marie nous écrit en lien avec ce qu'il se passe actuellement à la radio sur Tintin. C'est quand même une BD où il n'y a que des personnages masculins. Et nous n'avons autour de la table que des hommes pour en parler. Sachez, chère Marie, que nous avons sollicité Manon Garcia, Isabelle Sorrente et Laurence de Villers qui contribue au hors-série Tintin et qu'elle n'était pas hélas disponible ce matin. Remarque de Michel qui nous écrit « Je suis agacé par le trop lisse Tintin, je préfère le sale caractère du capitaine Haddock. » Serge Tisseron, je rappelle que vous êtes psychiatre, que serait Tintin sans le capitaine Haddock, hein?
Si, je préfère le capitaine Haddock, bien sûr. Ah non, mais il est incroyablement humain. C'est incroyable, oui. Ah non, mais Tintin, il est raide. Hein. Je veux dire, imaginez qu'un gouvernement donne le pouvoir à Tintin. Ben, on peut tout craindre. Hein. Non, le capitaine Haddock, c'est la vie. C'est formidable, bien sûr. Mais si vous voulez, il faut vraiment être très reconnaissant à Hergé à l'époque où il a créé ses personnages. Hein. Quand même, une époque où la bande dessinée pour enfants était très corsetée, d'avoir créé ce personnage inouï, quoi. Complètement en dehors des clous. Quoi. Voilà, avec ses jurons incroyables, et puis ses coups de gueule, et puis ses colères, et puis ses regrets. Voilà. Non, Haddock est bouleversant d'humanité. Hein. Pour moi, c'est vraiment la figure centrale. Mais je voudrais dire un mot, on a beaucoup parlé de bonheur, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué quand même autour de Hergé, c'est le texte. Mais moi, je dis des fois à des gens, demandez à quelqu'un de vous mettre dans la pièce à côté, et puis il vous lit le texte de Hergé, le texte des aventures de Tintin, et puis vous, dans la pièce à côté, vous ne voyez pas les images, mais vous écoutez le texte. Le texte est merveilleux. Oui. Je veux dire, il est très très bien écrit, il est très concis, il est très clair. C'est une école d'écriture, le texte de Tintin.
Et donc, je conseille d'ailleurs l'adaptation radiophonique de Tintin, des aventures de Tintin sur France Culture. Tiens, j'aimerais qu'on termine sur sur Haddock, sur le capitaine Haddock, pour la philosophe Laurence de Villers. Haddock est l'incarnation même de la colère. Elle nous rappelle cette colère, que c'est la frustration, le refus du réel, l'inadaptation du capitaine au cours des choses qui catalyse, cette colère catalyse l'aventure du jeune reporter.
Oui, moi je ne choisirais pas entre Tintin et le capitaine, je crois qu'ils font une paire et que la colère en effet du capitaine, son intervention toujours immédiate, il réagit dans l'instant le capitaine, n'a de sens que par rapport à la temporalisation et la réflexion de Tintin.
Bonjour Anne-Laure, bienvenue.
Bonjour.
Pourquoi adorez-vous Tintin, Anne-Laure ?
Eh ben, j'adore Tintin parce que bon, déjà on constate à travers les personnes qui interviennent là que ça traverse les générations, donc je trouve ça plutôt fort. Et c'est vrai que moi j'ai eu envie d'appeler là pour une petite anecdote marrante. Là aujourd'hui j'ai 35 ans et je connais Tintin moi à travers les dessins animés qui sont passés à la télé à l'époque. Et on parlait de vertu thérapeutique et j'ai le souvenir une fois d'avoir été malade, d'être chez moi, de pas avoir été à l'école, j'avais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai passé la journée à regarder des épisodes de Tintin et le soir je disais à mes parents mais Tintin m'a guéri. Et c'est vrai que au-delà de ça, c'est vraiment les valeurs, je trouve, enfin voilà, que nos parents peuvent nous transmettre et que Tintin incarnait globalement les notions de justice, enfin de voilà, d'être dans altruiste, d'être dans la fidélité. C'est vrai qu'il y a des personnages hauts en couleur qui l'entourent et il est toujours généalement à les accueillir, à être dans l'écoute, dans le pardon ou autre, et il n'est pas à juger au premier abord, quoi. Et c'est vrai qu'à travers les différentes aventures, bah, on apprend, notamment quand on est enfant, à pas mal de choses, quoi. Je pense par exemple au bijou de la Castafiore où il peut y avoir un peu des préjugés sur la communauté qui est à côté et finalement on se rend compte que c'est la pille qui a volé les bijoux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus tard que 2 jours, je me baladais, je voyais une pille, bah, ça m'a fait le petit clin d'œil à Tintin, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Alors, c'est un chouette personnage et qui m'a personnellement aussi donné l'aventure de, enfin, le goût de l'aventure et puis un peu le côté reporter, enquête, enfin, ne rien lâcher pour voilà, combattre les injustices. Voilà.
Merci beaucoup Sven Ortoli, Martin Legros et Serge Tisseron. Toute la bibliographie est à retrouver sur l'appli France Inter. Lundi, comment cuisiner et manger en pleine conscience.